Chapitre 20. Pour M. de Condrieu-Revel, il était temps que son petit-fils, que son cher petit-fils, se tuât, ou en tout cas qu'il mourût naturellement. En effet, le procès qui lui avait été intenté par le duc de Condrieu prenait une mauvaise tournure, et si prochainement Ludovic de Condrieu-Revel n'héritait pas du titre et du nom des Naurouze par suite de la mort de Roger, il était possible que le pauvre enfant, ce cher petit-fils vraiment cher celui-là, perdît et son nom de Condrieu et celui de Revel. Par toutes sortes d'influences mises en jeu avec une habileté et une persévérance extraordinaires, M. de Condrieu-Revel avait pu empêcher cette cause d'être plaidée, et chaque fois que le duc de Condrieu avait cru que son procès allait être enfin jugé, il l'avait vu renvoyer à un autre jour. Cela était devenu une sorte de curiosité au palais. Ce que M. de Condrieu-Revel avait voulu au moyen de ses remises successives, ça avait été de gagner du temps. Son cher petit-fils, le duc de Naurouze, né d'un père débile et d'une mère poitrinaire, avait reçu de ses parents les germes héréditaires de plusieurs maladies qui devaient fatalement le tuer. Cela se produisant, son titre et son nom pouvaient passer sur la tête de son parent mâle le plus proche, c'est-à-dire sur celle de son cousin, Ludovic de Condrieu-Revel. Il importait donc beaucoup, pour le succès des visées de M. le comte de Condrieu-Revel, que ce procès fût jugé le plus tard possible, comme il importait que le duc de Naurouze mourût aussitôt que possible. Pour le duc de Naurouze, à moins de le tuer de sa propre main, il ne pouvait pas faire plus qu'il n'avait fait, et sa conscience de ce côté était pleinement satisfaite. Il avait rempli son devoir. Pour le procès, au contraire, il était fort tourmenté, plein d'inquiétude, se demandant sans cesse s'il avait pris la bonne voie pour se défendre. C'est que ce procès n'avait pas toujours roulé sur le même point litigieux. C'est que le duc de Condrieu avait varié dans sa demande, qu'il avait étendu à mesure qu'en poursuivant l'étude de cette affaire, il avait appris à mieux connaître le comte de Condrieu-Revel. Tout d'abord, la demande du duc de Condrieu n'était pas bien terrible. Elle ne tendait qu'à faire cesser une confusion qui s'établissait trop souvent entre la famille des Condrieu tout court et la famille des Condrieu-Revel. Le duc se plaignait de recevoir quelquefois des lettres qui ne lui étaient pas adressées et de ne pas en recevoir bien souvent d'autres qui passaient par les mains du comte de Condrieu avant d'arriver aux siennes. Il se plaignait aussi d'être complimenté pour des ouvrages qui n'étaient pas de lui et qui blessaient ses idées. Enfin, il se plaignait, surtout, il se montrait irrité qu'on pût les confondre, eux, Condrieu, qui, depuis 1830, s'étaient tenus scrupuleusement à l'écart des affaires publiques par respect et fidélité pour le roi, avec un sénateur de l'Empire, ancien pair de France de Louis-Philippe. La défense du comte de Condrieu-Revel avait été facile. Sa réponse avait été celle que son père, le général comte de Condrieu, avait faite au commencement de la Restauration au duc Albert de Condrieu. « Je n'ai pas la prétention d'appartenir à la glorieuse famille des Condrieu. Peut-être, dans la nuit des âges, avons-nous eu une même origine. Mais cette parenté, si elle a existé, n'a point laissé de traces authentiques que je puisse indiquer d'une façon certaine. Je n'ai qu'une prétention, celle de m'appeler Condrieu, et elle est justifiée par une longue possession. Déjà, pour éviter une confusion, que nous ne désirons pas plus que la famille ducale de Condrieu, et par un sentiment de délicatesse qui aurait dû être apprécié, nous avons ajouté à notre nom patronymique celui de Revel, que quelques-uns de nos ancêtres avaient autrefois porté. C'est tout ce que nous pouvons. Nous demander davantage n'est pas sérieux. Comment veut-on que nous nous appelions si on nous interdit le nom de Condrieu ? À cela, le duc de Condrieu avait répliqué que si M. le comte de Condrieu-Revel n'avait point la prétention d'être un des membres de la famille ducale des Condrieu, il était étrange que, dans plusieurs ouvrages consacrés à la noblesse française et publiés depuis 50 ans, le Livre d'or de la France, la Bibliothèque de la noblesse, l'Armorial français, l'Annuaire des grandes familles, le Dictionnaire héraldique et 10 autres, Les Condrieu-Revel fussent une branche de la famille ducale des Condrieu, qu'on savait comment ces ouvrages se font, qu'on ne figure dedans le plus souvent qu'en payant la place qu'on y occupe, comme à la quatrième page des journaux on paie une annonce, et que toutes ces boutiques n'étaient que des fabriques de faux nobles où l'on travaille tant bien que mal à satisfaire la vanité des parvenus atteints de cette folie incurable qu'on appelle la manie aristocratique. Mais ce qui était plus étrange encore, avait fait remarquer le duc de Condrieu, c'était que les armes des deux familles, celles des Condrieu et celles des Condrieu-Revel, fussent à peu près les mêmes. Celle des Condrieu était d'or au coudrier de sinople avec la couronne ducale. Celle des Condrieu-Revel était aussi d'or au coudrier de sinople avec le franc quartier à dextre d'azur à l'épée haute d'argent posée en pal et montée d'or. Comment cela pouvait-il s'expliquer? Et le duc de Condrieu en avait fait faire une vérification très longue, très minutieuse dans le pays d'Aunis, d'où la famille des Condrieu-Revel était originaire, et les découvertes qu'elle avait amenées avaient changé la face des choses ainsi que les termes mêmes de la demande. On avait compulsé tous les registres des paroisses dans lesquelles se trouvaient les actes de baptême, de mariage, de décès de la famille Condrieu-Revel, et l'on avait acquis la preuve que tous ces actes, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au commencement du XIXe, avaient été falsifiés. Il y avait des grattages, des surcharges, des additions, non seulement dans le corps de l'acte lui-même, mais encore dans les signatures. Toutes ces falsifications portaient sur le nom de Condrieu, dans lequel, après avoir ajouté la particule « de », on avait dû changer une ou deux lettres, l'aine qui se trouvait dans le milieu du nom et l'U qui le termine. Quel était le vrai nom qu'une main de faussaire avait ainsi modifié? On avait recouru aux tables, mais on avait constaté que les feuillets de ces tables où le nom devait se trouver avaient tous été arrachés entièrement ou en partie, tantôt en haut, tantôt en bas, selon que le nom qu'on avait voulu faire disparaître était au commencement ou à la fin de la page. Qui avait pu se livrer à ces falsifications et à ces mutilations? Évidemment, ceux-là seuls qui avaient un intérêt à ce que ce nom de Condrieu fût écrit par un N et par un U. Ce qu'il y avait d'extraordinaire et de tout à fait caractéristique, c'était que le comte de Condrieu-Revel, descendant de ces Condrieu dont le nom avait été ainsi falsifié, avait été préfet de la Charente inférieure, département qui a été formé avec l'Aunis. Les vérifications avaient continué car il était intéressant de savoir quel était le nom vrai qui se trouvait sous celui de Condrieu et qui avait servi à former celui-ci sur les registres des paroisses. Il semblait que ce fût Coudrier, mais on n'avait point de certitude à cet égard. Pendant plus d'un an, le duc de Condrieu avait entretenu un agent pour poursuivre ses recherches. Dans les registres des paroisses, elle n'avait rien révélé, tant les falsifications avaient été habilement faites. Mais les minutes des notaires avaient parlé. Dans aucune de ces minutes, on n'avait trouvé de Condrieu, ce qui était bien étonnant, car une famille ayant un état civil qui se suivait si régulièrement avait dû passer des actes chez des notaires, faire des contrats de mariage, des testaments, acheter, vendre, payer, recevoir, donner des procurations, des consentements. Ne trouvant rien au nom de Condrieu chez aucun des notaires de la contrée, on avait eu l'idée de rechercher dans les noms qui se rapprochaient de celui-là et celui de Coudrier qu'on avait cru lire sous celui de Condrieu dans les registres des paroisses avait fourni tous les renseignements qu'on pouvait désirer. Ces Coudrier tout court, sans particule, avaient passé de nombreux actes notariés et, par une rencontre vraiment prodigieuse dans sa continuité, les dates des contrats de mariage faits par devant notaire concordaient avec les actes de célébration de mariage inscrits sur les registres des paroisses. La lumière était faite, le doute n'était plus possible. Il n'y avait jamais eu de Condrieu dans le pays d'Aunis, il n'y avait eu que des Coudriers. Donc, monsieur le comte de Condrieu-Revel s'appelait tout simplement, comme ses pères s'étaient appelés, Coudrier. Le duc de Condrieu, qui n'aimait pas les procès, même quand il devait les gagner, et qui n'avait entrepris celui-là que malgré lui, par devoir, pour faire respecter l'honneur de son nom qu'il trouvait compromis, s'était ému à la pensée de l'humiliation qui allait frapper un homme occupant une des plus hautes places de l'État, et bien qu'il n'éprouvât pas plus de sympathie pour cet homme que pour le gouvernement que celui-ci servait, par pitié, par charité, il avait cru devoir faire avertir le comte de Condrieu-Revel des découvertes que ces hommes d'affaires avaient faites et des moyens qu'ils allaient présenter au tribunal. Nougaret avait voulu s'opposer à cette communication en disant que son expérience pratique et sa brutalité de paysan, que le chevaleresque n'était point à sa place devant les tribunaux, pas plus qu'il n'était à propos avec un homme comme M. de Condrieu-Revel. Mais le duc avait insisté et il avait fallu se rendre à ce qu'il exigeait. Le comte de Condrieu-Revel avait donc été averti par Nougaret lui-même, qui, longuement, avec une satisfaction qu'il ne prenait pas la peine de dissimuler, avait insisté sur la falsification des actes et sur les faux commis pour remplacer le nom vulgaire, il avait souligné vulgaire, de Coudrier par celui de Condrieu. Il était perspicace, l'avoué, et prompt à saisir sur le visage de ses interlocuteurs ce qui se passait en eux. Cependant, il n'avait rien pu lire sur le visage placide du comte de Condrieu-Revel. « Je ferai part de votre communication à mes conseils, » avait dit celui-ci. « Ils verront ce qu'ils doivent répondre à M. le duc de Condrieu, que je vous prie de remercier en mon nom, en lui marquant combien je suis touché de son procédé. On peut se faire la guerre entre gentils hommes, mais on se la fait loyalement, loyalement. » C'était quelques jours avant sa visite à Mme d'Arverne que M. de Condrieu-Revel avait reçu cette communication. Le lendemain de cette visite, il montait en wagon pour aller voir à Bois-Colombes un généalogiste. Dans sa longue existence, M. de Condrieu-Revel avait été en relation avec le plus grand nombre des généalogistes français et étrangers qui, justement parce que sa généalogie n'était pas solide, étaient venus lui proposer de l'étayer de leur savoir. L'un lui avait dit qu'il avait la preuve que les Condrieu-Revel descendaient de Charlemagne. L'autre avait trouvé que leur origine remontait à Suénon, à la barbe fourchue, roi de Danemark. Un troisième, qui avait lu une généalogie qui donnait aux Condrieu la plus ancienne noblesse du monde, puisque leur auteur était Noé, comte de l'Arche, qui eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. Tous étaient directeurs d'un armorial, d'un annuaire héraldique, d'un livre d'or, dans lequel n'étaient admis que des nobles bien authentiques dont les titres avaient été sévèrement vérifiés. C'était cette sévérité qui faisait précisément qu'ils étaient dans la dure nécessité d'exiger une subvention de ceux à qui ils consacraient une dotice. Ah, si, comme tels de leurs confrères, ils admettaient tout le monde, ils ne demanderaient rien à un vrai noble qui honore leur recueil en figurant dedans. Les mauvais paieraient alors, et largement pour les bons, mais quand on s'adresse à l'élite, le succès est forcément limité, et puis la gravure, quand elle est soignée, coûte cher. Parmi ceux qu'il avait ainsi exploités avec le plus d'habileté, doucement, sans trop l'écorcher et de façon à ménager un avenir qui pouvait devenir productif le jour où les vrais Condrieu se fâcheraient tout à fait, se trouvait un certain baron, postole de la Pacaudière, qui dirigeait une agence de titres de noblesse dans la rue de la Victoire. Quand on tournait le bouton de cette agence, on se trouvait dans une pièce, contre les murs de laquelle étaient disposés des rayons garnis de vastes cartons. C'était le Chartrier, lisait-on sur un cartouche. Dans la pièce qui suivait, on trouvait les murs couverts de vieux tableaux qui tous étaient des portraits. Tous les personnages que représentaient ces portraits avaient leurs armes peintes à l'un des coins du tableau. D'autres toiles roulées étaient entassées çà et là. C'est que le baron postole de la Pacaudière ne se chargeait pas seulement de rédiger des généalogies pour les personnes qui s'adressaient à lui, il leur fournissait aussi des portraits d'ancêtres. Sans doute, c'est quelque chose qu'une belle généalogie et qu'un arbre généalogique. Mais pour frapper les yeux, combien vaut mieux une galerie d'aïeux ? Celui-ci, c'est l'aîné, c'est l'aïeul, l'ancêtre, le grand homme. Voulait-on une galerie complète, il la fournissait en l'appareillant. Ne voulait-on qu'un seul portrait, il en vendait un seul. Tenait-on à un maréchal de France en uniforme, à un amiral, à un ambassadeur, il avait cela. Se contentait-on d'un évêque ou d'un président, il trouvait le président et l'évêque tout ce qu'on voulait. Il ne fallait pas, il est vrai, être trop difficile pour le mérite de la peinture, mais qu'importe le tableau lui-même quand il s'agit d'un aïeul. Au temps où il était clerc de commissaire-priseur et employé dans la curiosité, il avait été en relation avec tous les marchands de bric-à-brac de Paris. Plus tard, il avait voyagé en province et il s'était ainsi formé une nombreuse collection de portraits qui n'avaient de valeur que par le nom qu'il leur attribuait et qu'il pouvait facilement renouveler à mesure qu'elle s'écoulait, n'ayant pour cela qu'à transmettre à ses correspondants la demande qu'on lui adressait. « Envoyez-moi un lieutenant du roi, un chevalier des ordres. » Le chartrier et la galerie n'étaient point les seules pièces qui, avec le cabinet du baron Postol de la Pacaudière, composaient les bureaux de la Bibliothèque nationale de la noblesse. Comme dans toute maison de commerce, il y avait un sous-sol, ou plus justement des caves, et bien que ces caves fussent terriblement humides, se trouvant dans le voisinage du cours d'eau qui passe sous cette partie de Paris, elles étaient pour l'industrie du baron ce qu'est une chute pour une usine hydraulique. C'était même cette humidité des caves qui lui avait fait choisir cette triste et maussade maison. Là, en quelques mois, on pouvait faire vieillir un parchemin qui acquérait bien vite un aspect de vétusté à tromper les experts les plus malins. Quelle belle généalogie, bien authentique, ne pouvait-on pas écrire, avec une encre spéciale, sur ces vieux parchemins ? Et c'était lui-même qui les écrivait, ces généalogies, car, bien qu'il n'eût reçu qu'une médiocre éducation première, il était parvenu à parler la langue du père Anselme de Sainte-Marie et des Dauziers, comme s'il eût été leur élève. Mais ce qui était le plus remarquable en lui, et ce qui faisait sa force, c'était une mémoire prompte, étendue, sûre, qui s'appliquait aussi bien aux noms qu'aux faits et aux dates. C'était un véritable dictionnaire vivant, et quand on venait le consulter, on était émerveillé, s'il s'agissait d'un vrai nom, de l'entendre citer, comme s'il lisait, tout ce qui touchait à ce nom. À ce métier, et bien qu'il y eût joint le commerce des décorations étrangères, il n'avait point fait fortune, car les bourgeois enrichis qui veulent s'annoblir, restés vilains malgré leurs prétentions, ne paient généralement qu'en marchandant. Cependant, il avait, après de longues années de travail, gagné une certaine aisance qui lui avait permis de se faire construire une petite maisonnette à bois colombes au milieu d'une plaine sablonneuse et aride où il allait passer 3 jours par semaine à se reposer du commerce des hommes dans la compagnie des poules, des canards, des oiseaux, des lapins et de tous les animaux de basse-cour qu'il adorait et pour lesquels il se ruinait. Ce fut dans cette petite maison de bois colombes que M. de Condrieu-Revel, se voyant menacé, l'alla consulter. Au lieu d'entreprendre ce petit voyage à bois colombes, il aurait très bien pu attendre au lendemain, où il aurait été sûr de trouver le baron Postol de la Pacaudière dans ses bureaux de la Bibliothèque nationale de la noblesse. Mais à bois colombes, le danger d'être vu était singulièrement diminué, et c'était cette considération qui avait fait monter en wagon M. de Condrieu-Revel. Personne ne le connaissait à Bois-Colombes. Comment deviner qui il était? Son nom et son titre n'étaient point écrits sur son chapeau, et la boutonnière de sa longue redingote de bon bourgeois ne laissait voir aucun ruban, car c'était une habitude prise par lui depuis longtemps de cacher ou montrer, selon les besoins du moment, la rosette de ses décorations. Entrait-il dans un hôtel où il avait peur qu'on le prît pour un personnage et qu'on le fît payer en conséquence, il la retirait. Pensait-il être exposé à réclamer le concours d'un sergent de ville ou d'un gendarme, à user de la complaisance d'un chef de gare ou d'un employé, il la montrait. Ce n'était pas sur le baron Postol de la Pacaudière que les décorations pouvaient exercer un prestige quelconque, lui qui avait dans ses bureaux des brevets de chevaliers, d'officiers de plusieurs ordres, achetés en bloc et en blanc, qu'il vendait en détail après les avoir remplis. À la station, on indiqua à M. de Condrieu-Revel la maison du baron de la Pacaudière et, au bout de 10 minutes de marche, il arriva devant une petite chaumière landaise bâtie en plein champ et dont le jardin était entouré d'une simple palissade en treillage. La porte hospitalière n'était point fermée, il n'y avait qu'à la pousser. Un ouvrier travaillait à laver les graviers qui avaient servi dans une basse-cour. Il répondit à M. de Condrieu-Revel que M. le baron était dans son cabinet de travail et, du manche de son balai, il montra ce cabinet, qu'on apercevait, à demi caché dans un massif de lilas, à une courte distance de la maison. M. de Condrieu-Revel prit l'allée qui semblait y conduire. Mais, ayant ouvert une porte, il s'arrêta surpris. Car si c'était un cabinet, ce n'était point un cabinet de travail. Alors, revenant sur ses pas, il fit le tour de ce bâtiment et vit qu'il s'était trompé tout d'abord. Mais aussi, l'erreur était vraiment facile, car par une idée bizarre qui prouvait au moins un véritable dédain de certains préjugés, les deux cabinets étaient réunis sous le même toit et adossés l'un à l'autre. « Ah, monsieur le comte de Condrieu !» s'écria le baron en apercevant le visiteur qui poussait la porte. Vivement, il se leva, saluant respectueusement mais sans obséquiosité, en homme qui sait ce qu'il vaut, surtout ce que valent les autres, ce qu'il doit et ce qu'on lui doit. « Passant par Bois-Colombes, dit M. de Condrieu, et me rappelant que c'était là que vous habitiez l'été, j'ai voulu... Oui, j'ai eu l'idée de vous faire une petite visite. » Longuement, ils causèrent de choses insignifiantes, et M. de Condrieu voulut voir les poules et les oiseaux du baron, qu'il admira. Mais il n'était pas homme à donner son admiration gratis. Les compliments qu'il prodigua à ses poules lui fournirent la transition qu'il cherchait pour arriver à son affaire. « Je vois, dit-il avec un fin sourire, que vous êtes un homme tout d'une pièce. En tout et partout, c'est la même idée qui dirige votre vie, la sélection des races. » Mais à ce propos, et puisque ce sujet se présente d'une façon tout à fait incidente, et par hasard, tout à fait par hasard, j'aurai peut-être bientôt besoin de vos conseils. Je suis tout à votre disposition, monsieur le comte. Oh, rien ne presse, plus tard, plus tard. Pourquoi plus tard? Au fait, si vous avez du temps à vous, tout le temps que vous voudrez me donner. Eh bien, voici de quoi il s'agit. Vous savez que M. le duc de Condrieu m'intente un procès? En usurpation de nom, j'ai entendu parler de cela. Je trouve la demande de M. le duc de Condrieu bien audacieuse et sa susceptibilité bien chatouilleuse, car enfin, vous avez tout fait pour éviter une confusion entre votre famille et la sienne, jusqu'à ajouter ce nom de Revel à votre nom. D'ailleurs, il me semble que lorsqu'une famille a gagné son duché dans le lit d'un roi et par adultère, elle devrait... Prenez garde, interrompit doucement M. de Condrieu, car cette famille dont vous parlez, c'est la mienne. Comment cela, monsieur le comte, n'avez-vous pas toujours dit hautement, il souligna ce mot, que vous n'appartenez point à la famille ducale des Condrieu? Sans doute, mais alors M. de Condrieu ne m'intentait point un procès. Maintenant, les circonstances ne sont plus les mêmes, et puisqu'on m'attaque, je suis disposé à me défendre et à faire valoir des prétentions qui reposent sur la justice et sur l'histoire. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Avec le plus vif intérêt. Eh bien, vous allez voir comment nous nous rattachons au Condrieu et pourquoi, jusqu'à ce jour, je n'ai pas affirmé cette parenté. En 1630, la famille des Condrieu était représentée par Guy de Feuquer, marquis de Condrieu. Né en 1592, mort en 1651, interrompit le généalogiste. Parfaitement, et par Gaston Jean-Baptiste de Condrieu, né en 1600. Qui fut chevalier de Malte, continua le baron. J'admire votre science, dit M. de Condrieu. Mais je l'admirerai plus encore si vous pouviez me donner la date de la mort de Gaston Jean-Baptiste. Ah, cela je l'ignore. Je ne sais même pas ce que ce chevalier de Malte est devenu. Mais à Paris... Eh bien, je vais vous le dire, moi, car le renseignement que vous pourriez trouver à Paris serait faux. Vous verriez que Gaston de Condrieu disparut dans une expédition contre les Turcs et qu'on n'eut plus de ses nouvelles. Il n'était cependant pas mort, comme on pouvait le croire, et sa disparition était volontaire. Il était venu à La Rochelle, où il avait été attiré par les charmes d'une jeune fille, Jeanne de Revel, et il l'avait épousée. Un chevalier de Malte? Vous voulez dire que ce mariage était impossible, puisqu'un chevalier ne pouvait être relevé de ses vœux que par le pape, ce qui n'avait lieu que bien rarement? Quand l'aîné étant mort sans descendant, le cadet devait continuer la famille. Aussi, pour ce mariage, Gaston de Condrieu, entraîné par sa passion, changea-t-il de nom et prit-il celui de Coudrier, tout simplement, qui lui était fourni par ses armes. D'or au Coudrier de Sinople. Justement, rompre ses vœux, abandonner le nom de ses pères, c'est chose grave. Mais, je vous l'ai dit, il aimait. Devenu Gaston Coudrier, il ne s'établit point dans l'Aunis, il navigua. Lorsqu'il s'était marié, Jeanne de Revel était riche, très riche. Mais des pertes de mère ruinèrent cette fortune. Quand Gaston mourut, en 1670, il ne possédait plus rien. Ses enfants, deux fils, gardèrent le nom de Coudrier, bien qu'ils sussent qu'ils étaient Condrieux. Pendant 120 ans, ce nom de Coudrier fut celui que porta ma famille. Ce fut seulement lorsque la Convention eut rendu le décret par lequel tous les citoyens ont le droit de se nommer comme il leur plaît, que mon père reprit publiquement le nom, son nom, de Condrieu, sous lequel, comme vous le savez, il fut fait comte par l'empereur. Depuis quelques instants, le baron semblait ne plus écouter avec la même attention. Tout à coup, il s'écria « Monsieur le comte, permettez-moi de vous interrompre. Chose curieuse, je connais à La Rochelle un portrait de Gaston Jean-Baptiste de Condrieu. » « Vraiment ? » dit Monsieur de Condrieu, sans manifester la moindre incrédulité. « Parfaitement, et s'il vous convient de le placer dans votre collection, je me fais fort de l'obtenir. Les armes de Condrieu sont peintes à l'un des coins, je me le rappelle, et même en faisant un effort de mémoire, il me semble qu'entre ce portrait et vous, il y a comme un air de famille, ce qui est bien naturel. Assurément, il me sera doux d'avoir ce portrait, tout à fait doux, et vous me rendrez service en me le faisant acheter, si toutefois le prix n'en est point excessif. Au reste, vous pourriez en même temps me rendre un autre service plus important encore. Ce serait d'examiner tous les actes relatifs à ces Condrieu, depuis Gaston de Condrieu jusqu'à mon père, de vous en faire délivrer des expéditions, pas en votre nom, bien entendu, et quand vous auriez toutes les pièces nécessaires, de me préparer un mémoire et un dossier avec lesquels mon avocat plaiderait, car maintenant, je suis décidé à réclamer cette parenté, oui, décidé, ce que je n'ai pas fait jusqu'à ce jour, par amour de la paix, par respect pour la mémoire de notre aïeul, et aussi par respect pour nous-mêmes, pour ne pas avouer notre bâtardise, qui n'est que trop évidente, hélas, puisque le mariage de Gaston Jean-Baptiste était nul. Je dois vous faire remarquer que plusieurs des actes que vous aurez à examiner portent Condrieu au lieu de Coudrier, et là-dessus, je ne peux vous donner aucune explication. Cela est, voilà tout. Monsieur le duc de Condrieu prétend que ces actes ont été falsifiés, que les noms ont été surchargés, brouillés. Mais cela ne me paraît pas sérieux. Pas sérieux. Quels seraient les auteurs de ces falsifications? Je ne les vois pas. Une seule chose me paraît certaine, c'est qu'on ne peut pas les imputer à des membres de notre famille. Puisqu'ils cachaient leur nom de Condrieu, comment admettre qu'ils auraient été l'écrire ou le faire écrire sur des registres publics? Avec le baron, il n'était pas nécessaire de mettre les points sur les i. Il comprenait à demi-mot, et quand il avait compris, il agissait discrètement. On pourrait plaider. Le duc de Condrieu n'avait point encore gagné son procès, et il ne le gagnerait pas de sitôt. Pendant que l'affaire traînerait, Roger pouvait mourir.